Il y a 50 ans, Franco s'éteignait, mettant fin à un règne ayant fait au moins 100 000 morts. À l'époque, beaucoup ont fui les exécutions sommaires, la répression, la traque aux opposants. Mais il y a un récit qu'on a un peu oublié en France, c'est celui de l'extrême pauvreté que connaît le pays dans ces années-là. Beaucoup cherchent alors à traverser les Pyrénées pour pouvoir trouver du travail et reconstruire leur vie. Une vie et une identité entre deux versants de montagne, construites pour eux et pour leurs descendants à la lisière de deux cultures, jamais totalement dans l'une, ni dans l'autre.
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Adios Casita, un épisode signé Joris Schamberger.
À côté du village, la Puebla, vit un agriculteur. Il s'appelle Antonio. Lui, il préfère s'occuper du bétail. C'est vivant le bétail. Ça bouge, c'est imprévisible. Les légumes, lui, ça l'ennuie. À côté d'Antonio, son fils, 7-8 ans, l'accompagne partout dans les champs. Et il l'aide sur toutes les tâches que ses petites mains arrivent à réaliser. Son petit-fils, lui aussi, il s'appelle Antonio. Et ce petit, le petit Antonio, c'est mon grand-père.
Je m'appelle Antoine Sierro. En espagnol, Antonio Sierro.
Mon nom est Madame Sierro Mireille, parce que mon prénom, on me l'a donné quand je suis arrivée en France, et c'est resté Mireille, de nom de jeune fille, Iglesias Arcimida.
Mes grands-parents, Antonio et Argimira, ont grandi en Espagne, près de la frontière portugaise, dans deux petits villages à 5 km l'un de l'autre, Albergaria de Argañán et la Puebla de Asaba.
Aujourd'hui, l'armée rouge est captive et désarmée. Les troupes nationalistes ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est terminée.
Quand ils naissent, l'Espagne, c'est une dictature. Le général Franco a fait son coup d'état en 1936 et le pays traverse une des périodes les plus dures de son histoire. On appelle les années après la Seconde Guerre mondiale « Los años del hambre », les années de la faim. Cette faim, elle a fait plus de 200 000 morts dans le pays et quand mes grands-parents naissent dans les années 50, l'Espagne se relève à peine de cette période. Donc évidemment, dans un petit village au bord du pays, bah, les conditions sont rudimentaires.
Alors moi, je suis né au village directement, à Puebla de Asaba. Dans la maison de ma grand-mère. Il n'y avait pas, à l'époque, les hôpitaux, tout ça, ça n'existait pas trop.
Il y avait quand même un docteur qui est venu ou...
Oui, je ne crois pas. Il y avait les femmes, tu sais, ma grand-mère, elle avait eu 10 enfants, je pensais qu'elle savait comment ça se passait. Le docteur, il est venu après, le lendemain.
Je suis née à la Medilla.
À 7 km.
À 7 km de la Puebla. C'est surtout ma grand-mère qui m'a élevée. Pendant des années, j'allais à l'école, donc une fois que j'ai commencé l'école, je restais avec elle au village. Mes parents, ils étaient à la ferme, quoi.
Ben, disons que nous, à l'époque, tu sais, nos parents étaient ouvriers. Donc, ils étaient ouvriers. Quand ils ont donné un peu de travail à la tâche, à mon père, pour certaines choses, au moment de moisson, au moment de labour, il faisait ces travaux-là, là où il payait le plus, tu vois. Et donc, ils étaient tout le temps en mouvement. Et nous, quand on allait à l'école, on bougeait moins, on restait avec nos grands-parents, c'était pareil pour pouvoir suivre un peu l'école, quoi. Et ça, nous, on a déménagé, je sais rien, moi, peut-être une dizaine de fois en 10 ans. Voilà, on n'arrêtait pas, on bougeait un peu partout, là où il y avait du boulot, quoi. C'était juste,
tu sais. C'était juste, mais bon, voilà. On arrivait à vivre, hein.
Voilà. on vivait avec ce qu'on ramassait. Nous, on a eu de la chance, c'est que mon père était vaillant, était costaud, mais tout le monde n'était pas dans le même cas. Hein. Il y en a qui ne rejoignaient pas les bourreaux. Mais disons que dans ces années-là, les gens ils cédaient les uns aux autres. Tu vois, s'il y en avait un qui n'y arrivait pas, mais on les prenait, on les aidait, quoi. On partageait ce qu'on avait pour manger.
Oui, mais ça, il faisait beaucoup de contrebande.
Après, bon, nous, on était à la frontière un peu, on faisait un petit peu de business.
De contrebande, mon père aussi, hein.
Nos parents faisaient un peu de business avec le Portugal, quoi.
Depuis la guerre civile, la contrebande s'est généralisée en Espagne, et notamment à la frontière avec le Portugal, la Raya. C'est pas forcément du trafic d'armes ou du trafic de drogue, c'est plus ce qu'ils appellent de la contrebande de subsistance. Par exemple, les marchandises qui passaient le plus souvent la frontière, c'était le café et le bétail.
Ma mère travaillait à la gendarmerie comme femme de ménage. Les gendarmes, c'était pas des gendarmes qu'on appelait ça.
Les douaniers,
ils venaient manger à la maison et mon père, il faisait la contrebande par derrière. Ah, voilà. Et alors qu'on avait les douaniers à la maison.
C'était comme ça.
C'était comme ça avant.
Tout le monde marchait dans la combine, quoi. J'en avais vu, là. Ils les attachaient derrière les chevaux. Et ils les enfermaient dans des cachots. Et à coup de matraque, jusqu'à qu'ils disent la vérité, quoi. Et après, quand ils revenaient, ils n'étaient pas en bon état, hein. Tu sais, on rigolait un peu, on disait, mais ceux-là, ils vont en prendre pour leur grade. Ça ne nous faisait pas trop de... On se mettait à la porte, on les écoutait l'état passé, quoi. Mais ça nous faisait...
Non, mais on n'a pas été... Pas comme dans les villes.
Mais mon père, il s'était fait choper. À un moment donné, il a eu un jugement avec... Bon, ils se sont un peu accrochés avec les douaniers... Que c'est toi qui as fait ça, que c'est pas toi, bon, tout compte fait. Mon père, il a gagné, il a dit, vous m'avez forcé à le faire, ceci, cela. Bon. Avant, c'était celui qui avait le plus de gueule. Hein. À cette époque-là, c'était quand même le régime franquiste. Hein. On n'avait pas le droit de s'amuser entre nous, tout ça, oui. Mais le soir, si tu allais au milieu de la. Quand tu commençais à avoir déjà 14 ou 15 ans, il ne fallait pas trop se rassembler ensemble, tu vois. Dans les villes ou autres, parce que la police arrivait, était écartée. Il fallait pas rester en groupe.
En 1956, Franco crée l'Institut espagnol des migrations. L'objectif, c'est de contrôler un minimum les flux migratoires entre la France et l'Espagne. Le principe, vous dites à l'Institut que vous voulez partir en France, et l'Institut vous trouve un travail quelque part dans le pays. Et évidemment, vous n'avez pas le choix d'où vous partez, hein. Dans les faits, il n'y a qu'un dixième des immigrés espagnols qui choisissent cette option-là. La plupart choisissent la voie illégale et traversent les Pyrénées. Mais ma famille, elle veut être en règle. Donc, pas le choix de la destination. Et c'est comme ça que mon grand-père, il s'est retrouvé dans le nord de la France, dans les Ardennes.
On a été sollicité, mon père, pour venir défricher les forêts dans les Ardennes, de sapins. Parce que c'était après la guerre, bon, elles étaient toutes mitraillées, tout ça. Il fallait couper tous les sapins. Et ensuite, ils les ont arrachés avec des bulldozers. Alors, mon père et mon oncle, ils étaient venus pour ça. On est venus en tant qu'immigrants avec un contrat de travail d'immigration. C'est-à-dire que pendant un an ou deux ans, ils avaient un contrat avec un patron français et ils ne pouvaient pas s'en aller ailleurs. Il fallait, pendant cette année-là, il fallait travailler rémunéré par mois, quoi. Mais bon, ils te donnaient ce qu'ils voulaient, en fait. Hein. Les Français, quand même, à l'époque, hein. Mais ça te permettait d'avoir une carte de travail. Et par la suite, au bout d'un an, tu pouvais te chercher autre chose si tu voulais.
Dans les années 60, les Espagnols sont la première nationalité étrangère présente en France. Ce sont plus de 600 000 personnes qui viennent, souvent pour travailler et répondre aux besoins dans les usines et les champs. Souvent, dans l'histoire de la migration espagnole, on parle des réfugiés politiques de la guerre civile. Mais après cette période-là, il y a eu des centaines de milliers d'Espagnols qui ne fuyaient pas forcément Franco, mais la crise économique que traverse le pays. De l'autre côté des Pyrénées, la France est en plein dans les Trente Glorieuses. Elle connaît encore le plein emploi, et la croissance est au beau fixe, et ces travailleurs espagnols, ils sont juste vus comme un moyen d'améliorer encore la situation économique du pays, quitte à les arnaquer à certains endroits. Et ça, c'est d'autant plus facile que la plupart ne parlent pas ou quasiment pas français.
C'est la France On s'imaginait, je ne sais rien, moi, un paradis, un truc de fou, quoi. Un beau pays, un beau... voilà. Après, nous, tout ce qu'on avait, nous, c'était un petit dictionnaire hein, qui était marqué en français et en espagnol. Mais dans ce petit dictionnaire, les mots, ils étaient marqués hein, espagnol, français, et la façon de les prononcer en français. Plus ou moins, tu sais, c'était écrit, voilà, pour que tu puisses le prononcer un peu. Et nous, avec ma sœur, on ne connaissait pas du tout le français. Mon père, très peu, ça faisait un an qu'il était en France, il ne connaissait pas beaucoup plus que nous. Et donc, nous, c'est à l'école, mais on apprend très vite quand, à ces âges-là, quand même. Hein. On apprend très vite, parce que dans les Ardennes, personne ne parlait espagnol. Donc, tu es obligé d'apprendre vite. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école dès que je suis arrivé. Ma sœur, elle était plus âgée, qu'elle avait 14 ans. Elle, elle est allée un an à l'école. Après, elle n'a pas pu continuer parce que c'est déjà trop tard.
Après un an dans les Ardennes, Antonio et sa famille partent vivre à Dalou, un petit village en Ariège dans le sud de la France, où vit aussi ma grand-mère d'ailleurs. C'est bien le sud, hein. Dans les Ardennes, il faisait vraiment trop froid. Les Sierrots, ils étaient pas prêts à ça, ils étaient même arrivés en short en plein mois de novembre. C'est en Ariège que mon grand-père va vivre une grande partie de sa scolarité. Mais à l'école, pour Antonio et Argemira, il y a toujours cet éternel problème de la langue et de la précarité familiale.
Là où je l'ai trouvé difficile, moi, c'est bon, quand on est parti de cette école primaire, parce que moi, quand on est arrivé en France, j'avais 11 ans, 11 ans, tu t'imagines, il faudrait être déjà un sixième, un truc comme ça. Moi, j'étais, j'arrivais, quoi, j'étais avec tout petit après, moi. Mais ceux qui étaient mathématiques et tout ça, je connaissais autant qu'eux, parce que les maths, c'est pareil, ça, je savais le faire. Donc, après, quand j'ai quitté la première école primaire, on est parti dans une ville, et là, je suis rentré dans l'espèce de collège, quoi. Hein. Et là, pour moi, c'était dur. Là, c'était dur, parce que là, je comprenais beaucoup moins le système, j'étais tout seul. Là, je déprimais un peu, tu vois. Et ensuite, on est venu...
À Dalou.
Et là, à l'école primaire, moi j'étais à 13 ans déjà. Ça fait 13 ans. À CME2. Pour nous, c'était dur. On a toujours été en retard au point de vue français. Et comme tu es en retard au point de vue français, tu es en retard en mathématiques aussi parce que tu ne comprenais pas le système. Le système des maths modernes qu'il y avait et tout ça, là, bon, hein. C'était difficile, les rédactions, les, tout ça, c'était difficile. On n'a pas eu cette chance de dire je vais faire instituteur ou autre.
Non, parce que bon, financièrement, ils n'avaient pas les moyens, les parents. Hein.
Alors,
quand on est arrivé, non.
Pour arriver aux études, après, quand tu as fini l'école primaire, que tu ne peux plus aller dans des lycées ou autre. Moi, j'ai choisi d'apprendre un métier. À l'époque, il y avait des CET, ça se faisait des CAP en 3 ans. Donc, ils te demandent, tu fais une orientation. Hein? C'est après l'école primaire. Et là, ils te demandent le métier que tu voudrais faire. Moi, j'avais dit mécano ou menuisier. On m'a dit, il n'y a pas de place. Si tu veux, il y a la place dans le bâtiment. Eh bien, tu es dans le maçon. Mais de ma vie, je ne savais pas ce que c'était de faire le maçon. C'est pas un truc que j'y ai pensé de le faire le maçon. Jamais, j'aurais fait n'importe quoi, mais sauf ça.
Quelques années plus tard, mes grands-parents se rencontrent, ils se marient à 20 et 21 ans. Et là, nouveau problème. Dans les familles espagnoles, à l'époque, tant que vous n'êtes pas marié, en fait, on vous considère comme des enfants. Donc, votre salaire, vous le donnez aux parents, jusqu'au jour où vous emménagez, et là, vous partez avec rien.
On avait de quoi payer le loyer un mois avant, ou deux, et c'est tout. Mais ça marchait vite, quoi. Moi, j'étais tâcheron. Un tâcheron, à l'époque, c'est plus tu travaillais, plus
tu gagnais.
pour bâtir une maison, on te donnait, mettons, aujourd'hui, on te donnerait 8 000 euros. Si tu te la bâtis en 15 jours ou 2 mois, ben voilà, plus ça va, plus vite tu allais, plus tu gagnes. Alors, les heures, je ne comptais pas, tu faisais ce que tu voulais. Mais par contre, tu n'avais pas de. Moi, je n'avais pas de paye à côté. Si je travaillais, je gagnais. Si je ne travaillais pas, je ne gagnais pas. On était arrivé, je crois que c'était 49 heures, hein, quand j'ai commencé à travailler, moi.
Alors, 2 générations plus tard, qu'est-ce qu'il reste de l'Espagne dans la famille Sierro? Ben finalement, pas grand-chose. En se mariant, Antonio et Argimira sont devenus Antoine et Mireille. Ma mère et son frère, nés espagnols, ont obtenu la nationalité française comme leurs parents. Et moi, aujourd'hui, eh ben, je suis bien loin de l'histoire de mes grands-parents. Moi, j'ai eu une enfance tranquille, je suis nul en bricolage, je serais incapable de faire quoi que ce soit dans une ferme. Je suis en master et eux n'ont même pas pu envisager de peut-être pouvoir passer le bac. La différence qui me marque le plus, c'est que je ne parle pas très bien espagnol. Selon la linguiste Anne Powells, les langues d'origine ont tendance à disparaître en 2 ou 3 générations. Et notre cas le montre bien.
Le français a été toujours prioritaire à la maison.
À la maison pour l'espagnol.
Mais comme on avait les parents, qu'eux, ils parlaient l'espagnol, les enfants, ils ont appris un petit peu l'espagnol. Ils le comprenaient plus qu'ils le parlaient. Mais nous, à la maison, on n'a jamais parlé espagnol. Le tort que j'ai eu, peut-être. Hein. Je pensais qu'il aurait fallu parler, mais bon, ça venait pas tout seul. Alors, voilà. Et puis, on nous disait aussi à une époque, aujourd'hui on te dit le contraire, que si on parlait l'espagnol, et qu'après,
à l'école,
entre le français et l'espagnol, ça faisait un mélange. Et c'était pas bon. Alors qu'aujourd'hui, ils te disent, plus tu apprends, mieux c'est. Yeah. On se considère comme des vrais Français. Parce que quand on va en Espagne, ils nous disent, oh, les Français, ils arrivent. Hein. Alors, voilà, on a toujours eu un petit coin étranger, mais bon.
En France, un peu moins du tiers des ouvriers sont issus de l'immigration dans les années 60 et 70. Ça crée une plutôt bonne ambiance sur les chantiers, et même à l'usine où ma grand-mère pique des chaussures depuis ses 17-18 ans. Entre étrangers, on se serre les coudes. Pour mon grand-père, par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Et il a eu plusieurs fois affaire au racisme.
Ici, dans l'Ariège, moins que là-haut. Dans l'Ariège, on est quand même assez limitrophe en Espagne, donc il y avait moins ce problème-là. J'ai connu ça en arrivant un petit peu. Parce que je te dis, nous, ils nous traitaient d'étrangers sauvages. Ils nous disaient d'étrangers sauvages.
Dans les années 70, plus de 100 000 Espagnols sont retournés au pays. La France, qui traversait alors le choc pétrolier, donnait même 10 000 francs à ceux qui accepteraient de quitter leur travail et le pays. Mais pour les Sierros, c'était hors de question. Maintenant que tous les oncles, les tantes, les parents, les enfants ont déménagé, ils ne feront plus jamais marche arrière. Parce qu'en Espagne, tout est affaire de famille.
C'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Joris Chamberger en novembre 2025. Coordination, Céline Asselot et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.